C'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 8. Un jour, Jésus monta dans un bateau avec ses disciples et leur dit « Passons de l'autre côté du lac ». Ils gagnèrent le large. Pendant la traversée, Jésus s'assoupit. Soudain, un vent violent se leva sur le lac. L'eau envahit le bateau. La situation devenait périlleuse. Les disciples s'approchèrent de Jésus et le réveillèrent en criant « Maître, maître, nous sommes perdus !» Il se réveilla et parla sévèrement au vent et aux flots tumultueux. Ils s'apaisèrent. Et le calme se fit. Alors il dit à ses disciples « Où donc est votre foi ?» Quant à eux, ils étaient saisis de crainte et d'étonnement. Et ils se disaient les uns aux autres « Qui est donc cet homme ? Voyez, il commande même au vent et aux vagues et il s'en fait obéir. » Alors nous sommes au tout début du ministère de Jésus. Jésus est encore en Galilée, au nord d'Israël, avec les 12 disciples fraîchement diplômés du choix de Jésus sur eux. Ils ont été choisis et ils ont suivi le maître, le rabbin. Et j'imagine que les 12 disciples se connaissent à peine, quelques semaines, quelques mois qu'ils sont ensemble. Ils n'ont pas vécu grand-chose ensemble. Il y a eu le sermon sur la montagne, un sermon hors norme. Mais maintenant, ils sont dans un bateau et une tempête se lève sur le lac et le grand rabbin, Jésus, dort au fond du bateau. Les 12 disciples choisis d'en haut sont assez désorientés, apeurés même. Ils sont dans une situation qu'ils n'ont pas prévue. La situation devient périlleuse, dit le récit. Il faut dire à leur décharge que la tempête peut se lever en 20 minutes sur le lac de Génézareth ou de Tibériade, le lac de Galilée, et des tempêtes vraiment violentes. Le lac se situe à 200 mètres en dessous du niveau de la mer, et quand il est entouré de montagnes, et quand l'air froid vient des montagnes, le vent d'est, et rencontre l'air chaud du lac, il y a, les météorologues le disent, il y a tempête, il y a remous, et la tempête peut être très, très, très forte. Et les disciples ont peur. Dans l'évangile correspondant à Luc, l'évangile de Marc, le récit de la tempête se trouve dans les 3 évangiles synoptiques, c'est-à-dire qu'on peut voir ensemble Matthieu, Marc, Luc. Marc parle d'une grande peur, d'une phobos mégane, enfin une phobone mégane, une grande, une méga phobos, une grande peur, à cause du grand vent, un méga vent aussi. « Nous sommes perdus », disent ces courageux marins d'eau douce, comme dirait le capitaine Haddock. Il les a pas traités de bachibouzou, mais des marins d'eau douce. Et on peut trouver qu'ils exagèrent un peu. « Nous sommes perdus !» Mais oui, quand il y a une tempête dans notre lac intérieur, on se sent perdu et on l'est peut-être véritablement. Sauf que quelqu'un est embarqué avec nous dans cette barque, avec eux dans cette barque et avec nous aussi, et sa seule présence dans la barque doit faire la différence. Et Jésus se réveille, enfin. Et malgré tout, il aura cette phrase très difficile à accepter pour ces gens qui ont été choisis, qui ont été triés sur le volet. Je parle des disciples. Il va leur dire « Où donc est votre foi ?» Il y a un peu d'ironie dans l'air de la part de Jésus. Où donc est votre foi, si elle est là, elle est bien discrète. L'auriez-vous oublié sur la plage ? Et on imagine que les disciples sont en train de regarder leurs sandales mouillées par les embruns. Ils sentent bien qu'ils ont la foi au fond des baskets. Et Jésus, dans l'évangile de Matthieu, pour le même récit, aura cette phrase « Pourquoi avez-vous si peur ? Votre foi est bien petite. Le vent est méga fort. La peur est méga phobique. Le calme qui revient après la tempête est méga paisible même. Tout est méga. Mais votre foi est micra. Mais votre foi est petite. » Et on se souvient de la traduction dans nos anciennes versions, on se souvient peut-être pas, mais toujours pour cette petite foi dans l'évangile de Matthieu, « Gens de peu de foi, dit Jésus. Gens de peu de foi. Pourquoi avez-vous si peur ? Jean de peu de foi, qui traduit bien l'original en grec, oligos, l'adjectif. Vous vous souvenez, on parlait pour la pub, je pense, d'une eau ou je ne sais plus quoi, les oligo-éléments. Je n'ai jamais su ce que c'était les oligo-éléments, mais c'est des éléments très petits. La traduction d'oligos, petit, peu nombreux, de petite quantité, de faible intensité. Jean de peu de foi, avec une foi bien fragile, qui ne résiste pas aux intempéries de la vie. Jésus les malmène un petit peu, ses disciples, il les chambre même. Jean de peu de foi. Mais il calme la tempête, malgré tout. Malgré cette foi de petite intensité, il les a choisis malgré tout, et ces gens de peu de foi, et il nous choisit également. Hommes et femmes de peu de foi. Un peu plus loin, dans le même évangile de Luc, au chapitre 17, on voit un autre épisode très intéressant qui vient comme un écho à cette tempête sur la foi des disciples. Jésus et ses disciples sont en route vers Jérusalem. On se situe bien plus tard qu'au début du ministère. C'est presque, pratiquement à la fin du ministère de Jésus, deux ans après, plus de deux ans après. Il n'y a pas de tempête là dans l'histoire, mais il y a une discussion sur le pardon. Et cette obligation qu'il y a pour les disciples de Jésus, comme pour les Juifs de l'époque, de pardonner jusqu'à sept fois s'il le faut. Et les disciples vont avoir une réaction étrange. Ils vont demander à leur maître, qu'ils suivent depuis plus de deux ans, « Augmente-nous la foi !» Bien, on parle de pardon, et puis après, les disciples demandent « Augmente-nous la foi !» Et on a l'impression qu'ils demandent, et c'est ce qu'ils font, une augmentation. Ils sont là devant le patron comme le syndicat des disciples réunis et ils veulent une augmentation non pas de salaire mais de foi. Et il semble que les disciples sacrifient déjà au principe de la croissance dans tous les domaines, même celui de la foi. On veut plus de foi, on veut plus de pouvoir, on veut plus de puissance, on veut plus de résultats même. Une foi bien musclée, en quelque sorte. Et on ne va pas leur faire un procès d'intention à ces disciples, ils sont ce qu'ils sont, et ils ont, comme la plupart d'entre nous, de bonnes intentions et d'autres peut-être un peu moins bonnes. Ils ont l'esprit bien disposé pour la plupart, mais la chair de tous est faible. Et Jésus, comme d'habitude, va surprendre par la réponse. « Augmente-nous la foi » demande-t-il. Et Jésus, dans sa réponse, ne va pas parler d'augmentation ou d'augmenter le potentiomètre de leur foi. Il ne leur demande pas non plus de faire des exercices musculaires pour faire gonfler les pectoraux de la foi. Non, Jésus n'est pas un gérant d'une salle de musculation, même si on peut l'être, il y en a de la communauté qui le sont, mais il est l'auteur de la foi et il l'amène à la perfection, comme le dit l'Épître aux Hébreux, et il va nous parler de la foi. Et voilà sa réponse. Oui, j'ai vu, c'est un livre chrétien, pour une foi toujours plus grande, des lettres comme la guerre des étoiles. Là. Jésus répondit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer et il vous obéira. » Alors on sait tous que depuis longtemps, enfin peut-être pas, mais que le grain de moutarde ou le grain de sénové est parmi les plus petites graines, mais que le moutardier qui en découle, qui en pousse, est une belle grande plante, un arbrisseau. Mais Jésus ne nous parle pas du moutardier, il nous parle d'une autre plante, il nous parle d'un mûrier, une plante magnifique, un mûrier, vous le verrez tout à l'heure, avec de beaux fruits noirs, des mûres, excellentes, avec de belles feuilles qui peuvent abriter aussi des vers à soie. C'est super un mûrier, c'est productif un mûrier. Mais on peut se demander, que signifie cette réponse ? Augmente-nous la foi. Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, jette-toi dans la mer et il vous obéirait. Est-ce que c'est un reproche que Jésus fait à ses disciples pour leur trop petite foi qui serait encore plus petite qu'un petit grain de moutarde? Jésus leur fait-il un reproche pour leur foi trop petite? Mais les disciples lui demandent justement qu'il augmente leur foi. On ne peut pas reprocher à quelqu'un qui vous demande que sa foi augmente, on ne peut pas lui reprocher que sa foi est trop petite. Ça n'aurait pas de sens. C'est comme si quelqu'un est en train de se noyer et qu'il vous appelle au secours et que vous lui diriez « écoute, t'avais qu'à savoir nager ». Mais c'est justement pour ça que je t'appelle au secours, parce que je ne sais pas nager. Ça n'aurait pas de sens de lui dire « t'as qu'à apprendre à nager ». Et donc, c'est peut-être pas un reproche pour une foi trop petite que Jésus leur fait. On peut aussi se poser la question de savoir de quelle utilité ce serait d'arracher un mûrier et de le jeter dans la mer. Aucune. Ce serait un acte tout à fait inutile et même antiproductif, avec la noyade des vers à soie, avec les fruits qui pourrissent dans la mer. Ça sert à rien de lancer un mûrier dans la mer. De même, ça ne sert à rien de bouger les montagnes, de déplacer une montagne, si ce n'est pour le paysage. C'est comme si on disait, c'est une photo de l'Estérel, là. Oui, l'Estérel, qui est à l'ouest. Or, on va le déplacer à l'est, sur le cap d'Antibes. Pourquoi faire? Vous voyez, le mûrier, pourquoi jeter un mûrier à la mer? Pourquoi jeter des mûriers, les murs à la mer? Et ce sont évidemment des images de choses difficiles à faire, voire même impossibles, de déplacer une montagne ou de jeter un mûrier à la mer, enfin qu'il y aille même tout seul, si j'ai bien compris le texte. Mais c'est cette idée aussi d'inutilité qui est présente, et moi je l'ai reçue il y a plus de 15 ans par une pasteur, Corinne Acry. C'était à Orléans en 2007, une conférence qu'elle donnait, et elle parlait de cette inutilité. Parce que ces deux images se rapportent à des actions extraordinairement inutiles. Je crois qu'il faut aller chercher ailleurs que vers le reproche pour comprendre la réponse de Jésus. Jésus ne semble pas répondre à la demande d'augmentation de la foi de ses disciples, aussi bien intentionnée soit-elle. Au contraire, avec sa réponse imagée, il leur dit qu'il ne marche pas dans la combine du « toujours plus ». Même quand il s'agit de la foi, il leur dit à eux, ses disciples, soumis aux échecs, soumis aux tempêtes, soumis à leur faiblesse, il leur dit « Votre foi est suffisante. Ne vous attardez pas sur la mesure de la foi. Dans le royaume de Dieu, nous sommes ni comptables, ni géomètres. Et nous aimons même ce qui est petit, et même plus petit que ce qui est petit. » Et il me semble que Jésus dit à ses disciples, comme à Gédéon dans le livre des Juges, va avec la foi que tu as. Non, non, Dieu il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Mais je me permets un changement. Va avec la foi que tu as, la force de la foi que tu as. Pour relever les défis de la vie que je te donne, c'est suffisant, parce que ce qui compte, ce n'est pas la quantité de foi, mais c'est l'objet de la foi. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, importateur exclusif du royaume nouveau sur la terre. Celui qui est là, dans la barque, et qui a pour tous les paroles de la vie éternelle, qui est une manifestation concrète, exceptionnelle de la grâce de Dieu. Ce Christ qui, par sa mort et sa résurrection corporelle, est notre espérance. Petite foi en un grand homme, petite foi en un grand Dieu. Et comme l'écrivait un commentateur pas connu, mais je trouve super cette citation, et il commente sur Luc, sur l'évangile de Luc au chapitre 8, « La foi véritable est toujours un mouvement de repli vers le Seigneur. Sa force n'est jamais la sienne propre, la force de la foi elle-même, mais toujours celle de Jésus-Christ. Elle est si petite qu'elle ne saurait rien attendre d'elle-même. C'est en riant d'elle-même qu'elle se met à l'œuvre. Oh, qu'est-ce qu'elle est petite, ma foi! Mais là, elle se met à l'œuvre. Et cet auteur, en parlant d'une foi qui se rit d'elle-même, nous parle de quelque chose d'important dans la foi, c'est l'humilité. Une foi humble, consciente de sa petitesse, de sa faiblesse, de son manque de foi, mais une foi qui s'abandonne à Jésus, qui vient, une foi qui vient réveiller Jésus au fond de la barque de sa vie, parce que la peur est aussi grande que ma foi est petite. Voilà la foi que Jésus aime voir parmi ses disciples. Une foi qui ne cherche pas à se montrer ni à rouler les mécaniques, mais qui vient humblement lui demander son aide pour la vie. Une foi qui serait tout sauf mégalomane. Une foi qui repose sur une relation avec lui, notre espérance dans ce monde, notre assurance pour la vie, une petite foi pour apaiser nos grandes peurs. Quand, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 14, Pierre voit apparaître le Seigneur, il est dans un bateau, Pierre, comme souvent, il est pêcheur, et il voit Jésus apparaître loin sur l'eau, et il lui demande de lui demander de se jeter à l'eau, et Jésus le fait, et Pierre se jette à l'eau. Il est plein de foi. Alors, on ne sait pas trop de quelle foi il s'agit, mais enfin, il y va. Et il marche sur l'eau, Pierre. Mais il s'enfonce à un moment. Et il s'enfonce quand il commence à perdre le contact visuel avec Jésus, avec le Christ. Il commence à regarder les circonstances, il commence à regarder le vent méga fort, les vagues méga hautes. Et là, il se pose la question peut-être de la taille de sa foi. Est-ce que j'ai suffisamment de foi pour continuer à marcher sur les eaux? Et là, il s'enfonce. Il s'enfonce et il crie « Seigneur, au secours !» Et immédiatement, nous dit le texte, Jésus lui prend la main. J'aime bien ce mot. Immédiatement, Jésus lui prend la main. Et pour Pierre, disciple comme les autres, le secret de la foi, c'est en fait de la garder petite, mais de garder les yeux fixés sur Jésus qui est avec nous dans la barque. Et puis, il y a dans l'évangile de Marc, ça c'est Pierre. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 9, il y a cette histoire fabuleuse d'un père qui s'approche de Jésus pour qu'il guérisse son enfant et qui lui dit cette phrase qui a traversé 21 siècles. « Seigneur, je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et c'est bien rendu en français « croire, incrédulité ». Parce qu'en grec, c'est le même mot aussi. Pisteo et apistia, avec le a privatif grec. Seigneur, je crois, mais je ne crois pas. Seigneur, j'ai la foi, mais j'ai pas la foi. Une affirmation tout à fait paradoxale. Et dans cet homme traversé par des courants contraires, Jésus trouve un lieu pour déposer sa grâce. Je me souviens aussi d'un homme qui traversait un passage difficile dans sa vie et qui me disait que sa foi était pas plus épaisse que du papier à cigarette. Je sais pas si vous avez roulé des cigarettes dans votre vie avec du tabac. Moi, je l'ai fait une ou deux fois. Je vois certains qui... c'est difficile, hein, le papier est fin. En général, on met trop de salive, etc. Mais le papier est très fin. Plus fin même que le papier Bible. Et la foi de cet homme qui traversait des moments difficiles n'était pas plus épais que du papier à cigarette. Mais pourtant, cette foi lui était suffisante. Et il traversait ce moment difficile. Et il résistait avec sa petite foi. Où donc est votre foi, nous dit Jésus ce matin? Ben, ma foi, comme disait ma grand-mère de Saint-Agrève en Ardèche, ma foi, elle est ce qu'elle est. Il y a une tempête dans la famille de mon épouse. Plusieurs sont au courant. Sa sœur Caroline qui a 62 ans, a eu un AVC il y a 15 jours, un AVC très très grave, qui se passe au fond de la partie basse du cerveau, au niveau du pont. Elle est complètement paralysée, elle peut simplement communiquer par ses yeux, répondre aux questions par ses yeux, et ça ne devrait pas progresser. On cherche, elle est au Mexique depuis 5 ans, et on cherche à la rapatrier vers la Belgique. La Belgique, il y a déjà l'hôpital d'Erasme qui a un lit pour elle, mais on pense à Caroline, c'est une tempête pour la famille Crooker, que nos amis belges qui sont là ce matin connaissent bien. Mais au cœur de cette tempête, on veut garder les yeux fixés sur Jésus, qui est notre espérance. La tempête est méga forte, notre foi est bien petite. Mais Jésus est là, au fond de la barque. Amen.